France Inter.
Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Harriet Tubman, née esclave et héroïne de l'abolitionnisme. En 1849, Harriet Tubman, 29 ans, esclave dans le Maryland, dans le sud des États-Unis, décide de fuir. Avec l'étoile polaire pour seule boussole, cette femme noire, esclave depuis sa naissance, prend la route vers le nord où l'esclavage est aboli. Marchant la nuit, dormant le jour, sous la menace permanente d'être rattrapée, Harriet Tubman sera aidée dans sa fuite par un étonnant réseau clandestin, l'Underground Railroad. Enfin, quand je me rendis compte que j'avais passé la frontière, écrira-t-elle plus tard, je regardais mes mains pour voir si j'étais toujours la même personne. Tout autour de moi devint splendeur. Le soleil doré traversa les arbres et se répandit sur les champs. J'étais comme au paradis. Mais Harriet Tubman ne se contente pas d'être libre. Elle va participer à l'Underground Railroad, n'hésitant pas à risquer sa vie pour aider des centaines d'autres esclaves à prendre la route de la liberté, ce qui lui vaudra d'être surnommée la Moïse du peuple noir.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Anne Garay-Bourrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure en études culturelles américaines à l'université Clermont-Auvergne. Cette histoire qui commence en 1849 dans le Maryland, état du sud donc des États-Unis, pouvez-vous nous rappeler son contexte, donc en ce milieu du 19e siècle, quelle est la situation de l'esclavage aux États-Unis ?
Eh bien, il est florissant, il occupe tout le sud des États-Unis, qui est un pays donc vraiment divisé, déjà un peu en route vers la guerre de sécession.
Oui, on est avant la guerre de sécession.
On est avant la guerre de sécession, avec donc véritablement deux morceaux de nations qui ne s'opposent pas encore, comme si le Nord n'avait pas encore vraiment pris conscience de ce qui se passait dans le Sud. Et dans le Sud, depuis déjà une petite vingtaine d'années, des esclaves s'enfuient, des esclaves partent et quittent le Sud vers le Nord, au moment où Harriet va faire, elle, son grand passage. Il y a à peu près 4 millions d'esclaves à ce moment-là dans le Sud.
L'esclavage est vraiment le fer de l'économie du sud des États-Unis, qui est basée essentiellement sur l'agriculture et les plantations de coton.
Plantation de tabac, de coton, qui effectivement est très demandé par l'Europe à cette époque-là, dans les années 30 et 40, qui explose et qu'on appelle le King Cotton, qui justifie évidemment qu'on contourne même les règles britanniques d'interruption de la traite pour aller développer son propre marché parallèle. Donc c'est un marché très florissant et c'est la seule économie du Sud.
Harriet Tubman, à 29 ans, en 1849, quand commence notre histoire, est-ce qu'on sait ce qu'a été sa vie jusqu'alors ?
C'est une vie d'horreur, une vie de violence. Elle commence à 6 ans à devoir s'occuper d'un bébé et elle est battue à chaque fois que ce bébé pleure. Et un bébé, ça pleure tout le temps, toutes les 2 heures, celui-là particulièrement. Donc elle est battue sans cesse, elle est agressée, c'est une petite fille très résiliente, qui ne se plaint jamais, qui va recevoir d'ailleurs des traitements particulièrement violents parce qu'elle est justement toujours agréable, toujours souriante. À 13 ans, elle reçoit un poids sur la tête d'un chasseur d'esclaves et elle n'est pas soignée pendant plusieurs jours, donc ses maîtres ne s'occupent pas du tout d'elle. Elle est très très mal traitée.
Elle change souvent de propriétaire, en fait.
Elle a le même propriétaire, mais elle est louée. C'est une esclave qui est louée régulièrement sur des plantations voisines, où elle va d'ailleurs tisser des réseaux d'amitié. Elle est louée, et c'est sur cette plantation voisine, justement, qu'elle va devoir s'occuper de ce bébé, et puis sur une autre plantation où elle va avoir affaire à ce chasseur d'esclaves qui va lui envoyer un poids dans la tête, qui va y faire un trou à partir de cette blessure. Elle aura d'ailleurs des visions
des hallucinations.
Un peu hallucinées. Oui. Voilà. C'est ça, des hallucinations qu'elle prendra pour des messages divins.
Oui, parce qu'elle est très religieuse, elle a une conviction religieuse très forte.
Elle est très religieuse, elle commence son parcours religieux à 13 ans, juste l'année de sa blessure, et elle fait un lien entre cette blessure-là, ce trou dans la tête, et ces messages qu'elle va recevoir constamment. A posteriori, les historiens parlent d'épilepsie, enfin bon, on a des diagnostics après, mais en tout cas, c'est considéré par elle comme véritablement le début de sa vocation religieuse, hein, d'antenne en quelque sorte. Elle entend des voix. Et elle a des hallucinations.
Et cette jeune fille, donc très religieuse, enfin, du moins avec une conviction religieuse très forte, est aussi très intelligente, oui. Et elle comprend assez tôt que les propriétaires blancs ne sont pas infaillibles aussi, qu'ils peuvent eux-mêmes avoir peur face à une forme de résistance, une forme de violence.
C'est très juste, ça le reçoit de sa mère, hein, en observant l'attitude des femmes, de façon générale, et en particulier de sa mère, qu'elle va voir se battre pour qu'on n'emporte pas son plus jeune fils. Hein.
Oui, parce qu'on séparait les familles.
Ah bien sûr, elle avait déjà ses deux sœurs aînées qui avaient été vendues peu de temps avant, et le plus jeune fils est sur le point d'être emporté, il est tout petit, et sa mère se bat. Et elle est tellement agressive, elle fait tellement peur, elle mord la jambe du maître, qu'il la lâche et qui dit « bon ben laissez-lui son enfant ». Et en voyant ça, je pense que l'émergence d'une, oui comme vous le dites, d'un petit ferment de rébellion a commencé à ce moment-là, où elle s'est dit « on peut leur faire peur aussi ».
Merci Anne-Garée Bourrier. Je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, on part donc dans le Maryland en 1849 avec Harriet Tubman, donc née esclave et héroïne de l'abolitionnisme, un texte de Pierre Lorimy, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Baptiste Guiton.
Et Maggie, un peu de place dans l'abreuvoir. Oh Seigneur, lave-moi de mes péchés. Si tu trouves du vice dans mon cœur, frotte. Frotte pour qu'il ne reste rien. Toi qui sais tout, l'autre jour je t'ai supplié. Si tu n'arrives pas à changer l'âme de mon maître, alors débarrasse-moi de lui, pour qu'il ne fasse plus de mal à personne. Et voilà qu'il est mort, cette nuit. Au fond de moi, j'étais en colère, tu comprends. Comme le jour où, pour rembourser ses dettes, il avait vendu mes sœurs Maria, Soph et Lina à une plantation du Sud. Maintenant qu'il est mort, on fait partie de l'héritage, comme les meubles, le bétail. Qu'est-ce qu'on va devenir ?
10 septembre 1849. Harriet Tubman, esclave comme sa mère, ses frères et ses sœurs, appartient aux Broaddus, petit propriétaire blanc à Bucktown, dans le Maryland, sur la côte est des États-Unis. Harriet vient d'apprendre la mort du maître, Edward Broaddus, et elle s'inquiète pour les siens. À 28 ans, mariée, sans enfant, elle passe sa vie dehors, à labourer les champs, entretenir les clôtures, s'occuper des bêtes pour la plantation voisine, celle d'un médecin à qui elle est louée. C'est une petite femme à la peau sombre, aux épais cheveux ramenés en chignon bas, qui impressionne par sa force physique. Quelques jours plus tard, elle aperçoit Eliza Broaddus, qui parle avec George Alberti, un ami de son mari. Elle se cache et écoute.
Bon, j'ai appris pour votre mari hier. Ouais, condoléances, Madame Broaddus.
Merci. Ça a été brutal. Le cœur a lâché. C'est ce qu'a dit le médecin.
Je suis désolé. Voilà maintenant à la tête de l'exploitation.
Il le faut bien. Edward me laisse en grande difficulté, bien plus que je ne l'imaginais.
Mais la nouvelle récolte arrive.
Elle ne sera pas bonne. Le maïs est gâté cette année. Je vais devoir vendre plusieurs esclaves. Je n'ai plus le choix. Nous avions déjà vendu un champ près de la rivière. Cela n'a pas suffi. Je dois prendre des décisions. Seule.
Je vous aurais bien épousé, mais je suis déjà marié deux fois et ça n'a pas été une réussite. Avec mon métier, hein, toujours par bons et par beaux.
Monsieur Alberti.
Non, excusez-moi. J'appréciais votre mari. On avait la même façon de voir les choses. Il me disait, George, en Amérique, c'est la valeur qui guide tout. Ballot de coton, poule, nègre, l'important est de savoir ce que ça vous coûte et ce qu'on peut en tirer. Il avait foutrement raison. Vous savez qui vous allez vendre ?
Harriet, celle que nous louons au médecin à côté, et deux de ses frères. Ils sont encore jeunes, en bonne santé, le marchand m'en donnera un bon prix, même si Harriet est déjà mariée à un certain John Tubman, un affranchi.
Les liens familiaux, hein, chez les nègres, leur mariage n'a aucune valeur. Ils vont être emmenés vers le sud, pour sûr.
En Géorgie.
Quand ?
Prochainement, je ne sais pas encore.
Alors, j'ai un conseil à vous donner. Soyez sur vos gardes. Ces animaux-là sont vite tentés de voir si l'herbe est plus verte dans le nord. Voyez ? Ça fait un paquet d'années que je traque les fuyards. À force, je les connais. Moi, je vous les ramène vite fait dans leur enclos.
Entendu, monsieur Alberti. Où avez-vous attaché votre cheval ?
Et là-bas, sous le peuplier.
Je vous raccompagne.
Pensez-y, hein. Ça arrive même aux meilleurs propriétaires. Vous savez où me trouver. Je vous ferai un bon prix.
T'entends ça, Maggie ? La maîtresse, elle veut faire pareil qu'à mes sœurs. Nous séparer, nous envoyer dans le sud profond, là où les maîtres sont encore plus cruels. Je vois encore ma mère, Riti, se traîner à terre, s'accrocher aux jupes de Lina, se prendre des coups de pied et nous tous pleurer, crier. Dans le sud, le coton, c'est l'enfer. Un monde brutal, sans pitié pour nous autres. Les seules choses que l'on peut choisir ici-bas, c'est notre mort et notre liberté. La liberté, je vais la prendre. Et vite, avant qu'il soit trop tard.
La nouvelle de la mort du maître a fait rapidement le tour du quartier noir de Bucktown. Tout le monde semble se résigner, sauf Harriet Tubman. Mais son mari refuse de s'enfuir avec elle. Harriet réussit à convaincre ses frères Ben et Henry. Mais au bout de quelques jours, ceux-ci renoncent par peur des représailles. Harriet décide donc de tenter sa chance, seule, le samedi suivant, le 24 septembre 1849. Mais elle doit d'abord dire au revoir aux siens, sans éveiller les soupçons.
Ce sera pour ce soir, au crépuscule. Avant, je dois faire comme si de rien n'était. Il y en a qui savent pas tenir leur langue. Certains avant moi ont été dénoncés avant même d'avoir pu mettre un pied dehors. Faut que je prévienne ma mère, mais elle est où ? Ah, ma cousine Marie. Faut que je lui parle. Mais non, c'est impossible. Il y a trop de monde autour d'elle. Le docteur sur son cheval. Il me regarde bizarrement. Il doit se demander ce que je fais là. Trouve un truc, vite. Nous, on chante tout le temps. Dans les champs, en famille, avec le prédicateur. Alors les blancs font plus attention. Ils devraient. On peut dire beaucoup avec une simple chanson. Allez, vite, tant pis. Je peux plus attendre. Je ferme la grille, doucement, et je pars. J'espère qu'avec ma chanson, le message est passé. La première chose quand on veut s'évader, c'est partir un samedi soir. Le dimanche, tout est fermé et personne ne travaille. Les maîtres ne s'en rendent compte que le lundi. Sans cette petite longueur d'avance, aucune chance.
Harriet Tubman doit se rendre en Pennsylvanie, l'état libre le plus proche. Pour y arriver, elle doit traverser le Maryland, le Delaware, parcourir 150 km à travers bois. Elle doit dormir le jour et marcher la nuit, contourner les champs, éviter les routes et affronter la pluie, le froid, la faim. Elle sait qu'elle doit longer la rivière jusqu'à un vieux chêne tordu par la foudre avant de bifurquer vers le nord.
L'étoile polaire, je la vois. C'est elle qui guide mes pas vers la liberté. Elle est facile à reconnaître tout au bout du chariot. La lune, faut que je m'en méfie. Elle éclaire le chemin, mais aussi les patrouilles. J'ai mal aux pieds. Pas étonnant, mes chaussures sont en lambeaux. J'ose même plus les enlever. C'est sûr, ils savent maintenant et sont à mes trousses. J'ai des visions d'ombres pendues aux arbres, de silhouettes dévorées par les flammes. N'y pensons pas. À la moindre alerte, je me fonds dans le paysage. Je deviens feuille, branche. Le plus épuisant, c'est les marais. Pour pas se faire avaler par l'eau noire, il faut longer la terre ferme près des roseaux. Des jours que je marche, je n'en peux plus. Griffée de partout, crasseuse. Si maman me voyait, je lui ferais peur. Ma famille me manque, oh oui. Mon mari, pas sûr que je lui manque beaucoup. Une grange là-bas. Pas de chien, j'ai de la chance. Je vais pouvoir dormir au chaud, dans le foin jusqu'à ce soir.
À son réveil au soleil couchant,
Harriet Tubman trouve près d'elle un morceau de fromage et du pain. Oubli ou cadeau du ciel? Une semaine s'est écoulée depuis son évasion. Elle a parcouru un tiers du chemin, suivant quelques points de repère, quand elle approche du village de Preston, qu'elle reconnaît à la forme du clocher. Ne sachant pas lire une carte, elle a mémorisé chaque détail du parcours qu'un ami de son père lui avait indiqué. Il y a une maison amie, la dernière à l'ouest du village, avec des volets verts et une lanterne derrière la seconde fenêtre.
Entre vite. Oh ma pauvre petite. Tu as l'air épuisée.
Cette femme que Harriet ne connaît pas s'appelle Mrs. Whitehall. Elle la fait asseoir et lui sert à dîner.
Ce bœuf salé au maïs, jamais rien mangé de si bon. Moi, c'est...
Chut. Ne dis rien. Reprends des forces. Tu es arrivée jusqu'ici. Tu as fait le plus dur. Tu vas prendre un bain et je vais soigner tes pieds. C'est la première fois que j'accueille une femme seule. Tu es courageuse, hein?
Et moi, c'est la première fois que je mange à la table d'une...
Blanche?
Oui.
Tous les blancs ne se ressemblent pas. Comme mon défunt mari, je suis Quaker. Nous croyons en l'égalité des hommes au regard de Dieu. Nous luttons contre l'esclavage et toute forme de persécution. Nous avons fui l'Angleterre à cause de ça, et... Mais ma fille... Qu'est-ce qui t'arrive? Mais réponds-moi. Je t'ai vu tomber d'un seul coup, sans réaction.
C'est rien, miss.
J'ai eu peur. Ça t'arrive souvent?
Depuis mes 12 ans, depuis qu'un contremaître dans l'épicerie du village a jeté un gros poing en fonte, je l'ai reçu en pleine tête, là.
Oh, ton Jésus!
Je visais un jeune esclave qui fuyait, j'ai voulu faire barrage. Je suis restée 2 jours sur une chaise sans pouvoir bouger, à saigner comme un bœuf. Ils n'ont pas appelé le docteur. Depuis, j'ai mes crises. Je m'endors n'importe où. Des maux de tête aussi, et des visions.
Des visions?
Une porte s'est ouverte sur l'autre monde. Je vois des choses.
Oui. C'est possible après une commotion cérébrale. Mon père était médecin.
Ça me porte chance. C'est le Seigneur qui me parle.
Quand tu seras reposée, un ami te conduira à la prochaine étape de ton trajet vers la Pennsylvanie. En attendant, tu dormiras dans la chambre secrète, derrière la cloison. Il n'y a pas de fenêtre, mais un vrai lit, avec des draps.
Oh, merci. Dieu vous le rendra.
Mrs. Whitehall fait partie d'un réseau clandestin qui aide les esclaves à fuir. Quakers, chrétiens mennonites, affranchis, nombre d'entre eux militent en secret contre l'esclavage. Au moment de se quitter, les deux femmes se prennent dans les bras, les larmes aux yeux. Les jours suivants, Harriet est prise en charge par le réseau. On la conduit du Maryland au Delaware, on l'habille en homme pour la faire passer pour un ouvrier, on la cache dans le sous-sol d'une église, puis dans un grenier. Elle arrive au nord du Delaware, à Wilmington, où un des chefs du réseau, Thomas Garrett, et sa femme l'hébergent quelques jours. Pour rejoindre la ville voisine, ils l'emmènent dans leur carriole, sous une bâche, au milieu des cageots de fruits.
Aïe!
Ça va? Désolé, la route est mauvaise, ce n'est guère confortable. On y est presque.
Chut.
Et ça y est, vous pouvez sortir.
La frontière?
Regardez le panneau.
P-E-M-M-S-Y-L-V-A-N-I-E. C'est le plus beau nom du monde, le seul que je sais lire.
Bienvenue dans le monde libre.
J'ai donc passé la ligne? C'est vraiment moi, là? Tout me paraît recouvert d'or, j'ai l'impression d'entrer au paradis.
Allez, venez, on vous emmène à Philly. On a encore pas mal de route. Montez devant.
Devant?
Bah oui, devant. Hey! Hey!
Harriet Tubman vient de franchir la ligne de démarcation Mason-Dixon qui, au XIXe siècle, sépare les États esclavagistes du Sud et les États abolitionnistes du Nord. Elle arrive ensuite à Philadelphie, la capitale de la Pennsylvanie, où elle trouve du travail au Grand Hôtel. Le soir, elle participe aux réunions des cercles abolitionnistes. Elle y fait la connaissance de William Steele, un homme distingué, qui préside à Philadelphie la Société contre l'esclavage. Il l'invite dans ses bureaux.
Alors, comment ça se passe, Harriet? Tu t'habitues à ta nouvelle vie?
Tout est neuf pour moi. Une feuille de paye, ma propre chambre, voir les Noirs marcher la tête haute dans la rue. Par contre, toute cette circulation...
Ça change du Maryland, n'est-ce pas? Mes parents étaient esclaves là-bas.
Ah oui?
Mon père a pu racheter sa liberté. Pour ma mère, ça a été beaucoup plus dur. Je t'en raconterai une autre fois. Je suis heureux que tu nous rejoignes. Fermons la porte. Même dans les locaux de la Société contre l'esclavage, il faut rester prudent. Tu sais que le récit de ton voyage m'a impressionné? Sans le savoir, tu as emprunté une ligne de chemin de fer clandestin de la côte Est. T'es passé par différentes gares, tu as rencontré les chefs de station, des femmes, des hommes, des blancs, des noirs.
Depuis longtemps, une rumeur circule. Celle d'un vrai chemin de fer, souterrain.
Ce serait trop beau. C'est à la fois plus simple et plus compliqué. Le railroad, c'est un train fantôme, sans carte, sans calendrier, sans ticket retour. Les itinéraires changent régulièrement. Chaque tronçon n'est connu que de quelques chefs de gare, ça limite les risques. Tout repose sur le bouche à oreille.
Je savais qu'il existait des routes secrètes d'évasion pour les esclaves. J'aidais parfois mon père au chantier naval de Baltimore. J'étais captivée par les récits des mariniers. Monsieur Steele?
William.
William, je veux devenir conductrice.
Je m'en doutais. Tu es donc prête à repartir dans le Sud?
J'ai vu la colère des esclaves, entendu leurs pleurs. Je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour les libérer. Je serai vraiment libre le jour où mes parents, mes frères, mes sœurs le seront aussi. Et tous ceux qui voudront me suivre.
Dans le railroad, chacun peut jouer un rôle. Conducteur, c'est le plus difficile, le plus exposé.
Chaque fois qu'il y a du danger, je le sens.
C'est précieux, ça. Bon, je vais t'expliquer ce que tu dois savoir. Les routes sûres et les zones à éviter. Comment prévenir de ton arrivée. Infiltrer une plantation. Manipuler une arme. Tu circuleras sous une fausse identité. Je consigne tout. Date d'entrée et de sortie des fugitifs, nom d'emprunt, liens familiaux. Tout est codé dans un grand registre comptable. Un vrai casse-tête.
Quelques mois plus tard, Harriet Tubman apprend que sa nièce, Kessia, et ses deux enfants vont être vendus aux enchères. Elle repart alors pour le Maryland, en terre d'Égypte, comme elle dit. À son arrivée, elle monte avec le mari de Kessia un stratagème pour les libérer et réussit à les ramener sains et saufs à Philadelphie. Un événement va pourtant compliquer son travail de conductrice.
Harriet, regarde, c'est dans le journal. La nouvelle loi est passée. Le Fugitive Slave Act. On parle que de ça ce matin.
Tu peux me lire l'article?
Toute personne aidant un fugitif en lui fournissant des soins ou de la nourriture est passible de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $.
1 000 $?
Toute personne entravant la mission d'un agent ou d'un citoyen tentant de retrouver un fugitif pourra être mise en accusation et ses biens confisqués. La loi fédérale exige que tout citoyen aide les propriétaires à capturer leurs esclaves en fuite.
Fédéral, donc partout aux États-Unis?
Sur tout le territoire.
Même dans les États où l'esclavage est interdit? C'est absurde.
Les représentants du Sud sont majoritaires au Congrès. Ce 18 septembre 1850 est un jour sombre pour tous les abolitionnistes.
Donc, les États de l'Union ne sont plus la terre promise?
Il faut désormais viser le Canada, sous la patte du Lion britannique qui, lui, a banni l'esclavage.
Ça rallonge sérieusement la ligne de chemin de fer, Will. D'un bon millier de miles vers le nord.
Oui, on n'est plus en sécurité nulle part.
Mais je vais le faire, Will. Je vais le faire. Pour mettre mes passagers à l'abri.
Les deux années suivantes, malgré les risques, Harriet Tubman multiplie les raids en territoire sudiste pour sauver ses proches et d'autres personnes menacées. En avril 1852, elle fait le point de la situation avec William Steele dans sa maison de briques rouges à Philadelphie, transformée en centre de réfugiés clandestins.
T'as vu? Une bonne idée, le dortoir à l'étage, non? On peut y accueillir jusqu'à 12 personnes. On l'a aménagé avec ma femme, Laetitia.
C'est bien, hein? J'étais pas venue ici depuis un bout de temps.
Viens, installons-nous. Alors, comment se passent tes voyages? Faut être très prudent, même à Philadelphie.
Je fais ce qu'il faut. Je change souvent mes trajets, je m'arrête pas dans les mêmes gares. Je prends même des bateaux avec des sauf-conduits aussi vrais que mes faux noms.
Tu arrives du Canada ?
Oui, de Sainte-Catherine, en Ontario. Une communauté d'affranchis s'est créée là-bas. J'y emmène mes passagers, mais cet hiver, ça a été rude. Il a fait très froid, on n'était pas équipés. On a survécu en vendant du bois.
J'aimerais pouvoir t'aider davantage. Tu convoies des groupes, on m'a dit.
Oui. Dans le dernier, on était 11. Avec John, mon frère aîné, et sa femme.
11 personnes ? Harriet, c'est incroyable.
T'en fais pas, je sais me faire respecter. Certains supportent pas. Quitter sa plantation, ses habitudes, s'échapper à tout ce qui règle notre existence. Ajoute la terreur de ce qui les attend s'ils sont repris. Alors parfois, au milieu du chemin, ils veulent rentrer. Rentrer. Il y en a un qui craque, tu sais ce que je fais ?
Non.
Je sors mon bon gros pistolet, je lui colle le canon entre les yeux et je dis « Tu connais une partie du réseau maintenant. Si t'es pris et que tu déballes tout sous la torture, un nègre mort ne parle plus. Alors tu continues avec nous, je te fume. »
Ah oui, quand même.
Deux secondes après, il est sur pied. Hein.
Tu parles pas de ton mari ?
Mari.
Tu voulais pas qu'il te rejoigne ?
Si, je lui ai rendu une visite cet automne en secret et... Bah,
oui ?
J'ai découvert qu'il s'était remarié avec une plus jeune.
Je suis désolé pour toi.
Bon, j'ai accusé le coup. Puis je me suis dit qu'après tout, je pouvais vivre sans lui. Hein. J'ai des choses plus importantes à m'occuper.
Face aux nombreuses évasions, les propriétaires d'esclaves du Maryland tentent de s'organiser. Dans sa plantation à Bucktown, Eliza Broaddus a fait venir George Alberti pour lui faire part de son inquiétude.
Monsieur Alberti, cela fait combien de temps que vous êtes chasseur d'esclaves ?
Eh ben, ça va faire 20 ans cette année. J'ai 150 captures à mon actif. Rien qu'avec mon cheval, mon chien et ma Winchester. Ah, il n'y en a pas beaucoup d'Atlanta à Baltimore qui pourront vous en dire autant.
On a besoin de vos services. Il faut mettre la main sur cette ravisseuse qui sévit dans la région.
Une ravisseuse ? Une femme, vous êtes sûre ?
Certaine. Entre planteurs du Maryland et du Delaware, nous avons fait une collecte. Nous offrons 40 000 dollars pour sa capture. Morte ou vive, tout frais payé.
40 000 dollars ? Pas une jolie somme pour une négresse.
On la soupçonne d'être une des têtes du principal réseau d'évasion de la côte Est. La Moïse Noire. Elle nous a coûté une cinquantaine d'esclaves déjà, sans compter l'influence désastreuse qu'elle a sur les autres. Il faut arrêter l'hémorragie.
Ah ouais ? Et vous avez d'autres indices sur elle ?
J'ai la conviction qu'il s'agit d'une de mes anciennes esclaves, Minty Ross, devenue Harriet Tubman après son mariage. Elle s'est échappée il y a 3 ans.
Décrivez-la-moi.
Petite, robuste, comme un homme. Type africain prononcé. Une cicatrice sur la tête. Rusée, elle se déguise souvent. Analphabète, mais fait semblant de lire une Bible. Mmh. L'air buté, la rébellion chevillée au corps.
Eh bien, elle va trouver plus malin qu'elle. Les fortes têtes finissent dans mon sac de cuir.
Une nuit de l'hiver 1854, Harriet Tubman voit en rêve un gros nuage noir planer au-dessus de ses 3 frères travaillant au champ. Inquiète, elle part alors pour le Maryland et leur fait passer ce message. Le bateau de Sion est arrivé, il est amarré à la grange au maïs et partira demain après le coucher du soleil. C'est la veille de Noël, la surveillance est relâchée. Elle retrouve Robert, son frère aîné, à la grange, à 2 pas de la case de leurs parents.
Il serait... Fais voir. T'as pas changé. Comment t'as su qu'on voulait fuir nous aussi ?
Le ciel. Gagner sa liberté, tu sais, c'est de plus en plus compliqué. Il vous faut un guide. Où sont Ben et Henry ?
Papa m'a dit que la femme de Ben est sur le point d'accoucher. Ben préfère rester, c'est son premier. Et Henry finalement reste avec lui.
Ils partiront par le prochain train. Puis je reviendrai chercher les parents et cette fois on sera tous réunis.
Oh, papa a vieilli, tu sais. Ses cheveux sont tout blancs maintenant. Et il est un peu voûté.
Ne réveille pas maman. Si jamais elle sait que je suis là alors qu'on s'est pas vu depuis 5 ans, elle fera un tel raffut que ça alertera les voisins.
Tiens, pour la route, on a du jambon, du gingerbread, c'est Noël.
Il est tard, il pleut trop. On partira demain. Le matin de Noël, personne fera attention.
Mais j'en peux plus, Harriet. Je suis vanné. On a marché toute la nuit et rien avalé depuis 2 jours.
Il n'y a pas de bois où se cacher par ici. Marchons encore 1 heure jusqu'à la rivière. On prendra des forces à la prochaine station.
Non, j'arrive pas. Faut que je m'arrête. N'importe où que je dorme.
Le jour se lève, on fait une cible facile à découvrir. Bon, d'accord, on dort là.
Quoi? Oh, là? Dans ce champ de patates labourées? Ils en ont même pas laissé une?
Oui, on s'allonge, on s'enterre comme un mulot, dans l'alignement du sillon, jusqu'au museau.
Oh, si t'étais pas ma sœur.
Oh, fais-moi confiance. Mais avant... Frotte-toi avec ça.
Ah, c'est...
Partout, même dans les cheveux.
C'est quoi? Ça pue!
Une lotion. Ail, géranium et poivre. Un bon répulsif. Tu veux finir dans la gueule d'un dog tueur d'esclaves? Quand ils te tiennent, ils te lâchent plus. Alors obéis, Bobby, s'il te plaît. Vite. Ça y est.
Ouais. Je bouge plus. Aussi raide qu'un macabé.
Chut.
Cherche, mon cher. On va signaler le passage d'une nègre et c'est un grand abeille en vadrouille dans le coin. À mon avis, sous son fichu de fausse paysanne se cache notre Moïse femelle. Allez, mon Brutus, cherche! Là-bas, vers le bosquet, là. Les fuyards, ça transpire la peur, c'est comme ça qu'on les repère. On est sur la bonne piste. J'ai du flair, moi aussi. 40 000 putains de box, hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon Brutus? Tu vas pouvoir manger du T-Bone steak tous les jours.
J'ai une crampe dans le pied. Et de la terre dans le cou, c'est horrible.
Moi, j'ai cru que t'allais te mettre à ronfler.
Tu fais une très belle patate ronflante.
Dans toute la région, autour de Baltimore et de la baie de Chesapeake, la traque des esclaves en fuite s'intensifie. On mène des battues dans les bois, on visite chaque maison, on interroge chaque passant. Harriet et son frère progressent à couvert dans le nord du Delaware. Cette nuit, ils doivent rejoindre la maison de Thomas Garrett.
La boue colle à nos semelles. L'humidité se glisse partout. Oh. Mais Bob tient le coup. Bientôt, on pourra se sécher devant la cheminée des Garrett. Ça bifurque. À droite, le chemin mène vers le pont de Wilmington. À gauche, il part vers les berges de la rivière Christina.
Stop. Arrête-toi.
Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne.
Tais-toi, j'écoute. Je sens quelque chose.
Il faut qu'on prenne à gauche, je le sens, et qu'on traverse la rivière. Elle est large et profonde. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui me parle. Tu es là. Tu me rassures.
Bob, suis-moi.
Va par là, c'est la rivière. Le pont, c'est à droite, on l'aperçoit au bout.
On va à gauche, je le sais.
Mouillé pour mouillé.
On passera jamais. T'as vu le courant? Hors de question. Minty, arrête! Ne va pas, c'est dangereux, on n'a même pas de temps.
Malgré l'eau froide et le courant, Harriet entre dans la rivière. Elle ne sait pas nager. L'eau lui arrive à la taille, puis aux aisselles. Elle avance en fixant l'autre rive. Elle porte son baluchon à bout de bras. Enfin, elle sent le sol remonter. Elle est passée. Robert, lui aussi, réussit la traversée.
Et voilà, pas si difficile, tu vois. Et pourtant, je suis bien plus petite que toi.
C'est plus une évasion, c'est une expédition. Je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas pris le pont. Ça fait un sacré détour.
On n'est jamais trop prudent, crois-moi.
Oui, mais là... On regarde l'affiche clouée sur l'arbre. $500 de récompense pour qui ramènera cet homme d'âge moyen. Grand, peau marron foncé, cheveux clairsemés, prénommé Robert.
Mais c'est toi?
Cheveux clairsemés?
Sois content, tu valais $200 la semaine dernière. Allez, viens, on nous attend. La grande maison dans Shipley Street, numéro 227. C'est par là.
Mes amis, vous voilà enfin.
Bonsoir, monsieur Garrett.
Entrez vite, nous étions morts d'inquiétude.
On a dû faire un détour par la rivière.
Ah oui, je vois ça, vous êtes trompé. Mais comment saviez-vous, Harriet ?
Quoi ?
Et qu'il y avait une patrouille d'une quinzaine d'hommes armés de ce côté du pont.
Hein ?
J'ai eu un mauvais pressentiment.
Vous avez bien fait. Il faut redoubler de prudence. Les chasseurs d'esclaves pullulent en ville. Allez, venez, venez vous réchauffer et manger un morceau. Je vais vous donner des vêtements secs et des chaussures neuves.
Ça marche toujours bien, votre fabrique de chaussures ?
Oh, ne m'en parlez pas, Harriet. Je vais peut-être devoir m'en séparer.
Mais non.
Les autorités se doutent de mes activités. J'ai procès sur procès à cause de cette nouvelle loi. Et les condamnations coûtent cher. Mais enfin, peu importe, je continuerai à me battre jusqu'au bout. C'est une question d'humanité.
Monsieur Garrett et sa femme font un travail incroyable pour le chemin de fer. La dernière fois, je conduisais un groupe de 8 personnes. Ils ont réussi à les faire passer au milieu de maçons qui rentraient d'un chantier, dans 2 chariots de briques.
Vous êtes chef de gare, c'est ça ?
Ouais, sans siffler. L'esclavage est un système monstrueux qui finit par broyer les individus. C'est pourquoi il est si difficile de s'émanciper seul.
Le jour où notre mère s'est opposée à M. Braddus, qui voulait emmener mon petit frère, elle a brandi un couteau. Et pour la première fois, j'ai lu la peur dans les yeux du maître.
Ah oui, je m'en souviens.
Le maître a renoncé. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris qu'on pouvait résister. Que tout ce que j'avais appris, je l'avais appris toute seule. Je leur dois rien.
Exactement. Demain matin, je vous montrerai mon nouveau projet. Une trappe sous le tas de foin. Et dessous, un escalier. Puis un tunnel.
Un tunnel ?
Mai 1857, apprenant que son père, accusé d'avoir aidé 2 fugitifs, va bientôt être jugé et risque la prison, Harriet Tubman monte une expédition pour sauver ses parents. La période n'est pas idéale. Les jours rallongent, il commence à faire chaud. Et ses parents, âgés, ne peuvent pas marcher longtemps. Elle invente alors un attelage spécial pour les transporter sur une 30aine de kilomètres avant de prendre le train. Le vrai, cette fois. Destination New York, puis l'Ontario au Canada. Une mission réussie, mais aussi une de ses plus risquées et éprouvantes. En 1859, pour la première fois, Harriet Tubman pense arrêter son activité clandestine. Elle milite pour l'égalité et le droit des femmes à New York et à Boston, où les chasseurs d'esclaves ne sont pas les bienvenus. En 1860, pourtant, elle retourne dans le Maryland pour une ultime mission, sauver sa dernière sœur, Rachel. À son arrivée, elle apprend que Rachel est morte un mois plus tôt. Elle ramène alors une famille, avec un bébé qu'il faut endormir au parégorique, un antidouleur à base d'opium, pour ne pas se faire repérer au passage des patrouilles.
Cette nuit, j'ai encore fait ce rêve bizarre. Je vois une tête de serpent jaillir d'un rocher. La tête devient celle d'un blanc, à barbe blanche, suivi de nombreux cavaliers. Soudain, une grande faux coupe des têtes. Madame Garrett me dit que dans les rêves, il peut y avoir des symboles. Et si c'était la guerre ? Les États du Sud menacent de faire sécession si on abolit l'esclavage. Ce soir, je rejoins William Steele à la Société contre l'esclavage. Dans 2 jours, ce sont les élections présidentielles. Il y a de la ferveur dans l'air. Notre avenir est en jeu.
Tu crois qu'Abraham Lincoln a ses chances ?
Pas sûr. Il est le candidat des Républicains, un parti qui n'a encore jamais gagné. Mais c'est un grand orateur, et en face, le camp démocrate est divisé.
Moi, je préférais le candidat William Seward. Il nous défend clairement. Mais c'est Lincoln que les Républicains ont choisi, et c'est moins net.
Il se dit contre l'esclavage, mais s'il devient président, j'ai peur qu'il cherche des compromis avec le Sud pour empêcher la partition du pays.
Moi, j'ai peur qu'il y ait une guerre civile. Je vais arrêter, William.
Ah. Tu as évité le voyage de trop ?
Non, c'est pas ça, mais toute ma famille est à l'abri maintenant. Mon train n'a jamais déraillé, je n'ai perdu aucun passager. J'ai envie d'autre chose, une autre forme d'engagement.
Que vas-tu faire ?
J'ai envie de soigner les gens, d'être infirmière. S'il y a la guerre, je serai utile. Je serai même prête à monter au front avec les soldats pour libérer un maximum d'esclaves dans les plantations. 100, 200, même 500 d'un coup, t'imagines ?
Je reconnais bien là la libératrice en chef. Frédéric Douglass, notre leader abolitionniste, dit dans ses meetings qu'une guerre de l'Union contre les États du Sud serait une chance pour enfin libérer notre peuple.
J'admire beaucoup cet homme, Frédéric Douglass. Il est né esclave, il a appris à lire et à écrire tout seul. Quelle classe ! J'ai reçu un mot de lui ce matin.
C'est vrai ?
Tu peux me le lire ?
Avec plaisir, montre. La plus grande partie de mon travail et du dévouement à notre cause a été faite en public. Toi, Ariette, tu as travaillé dans le secret. J'ai œuvré en pleine lumière, toi dans la nuit. J'ai eu les applaudissements de la foule alors que ta seule récompense fut un « Dieu te bénisse » murmuré par ces serviteurs effrayés que tu as guidés loin de leur vie d'esclave. Le ciel de minuit et les étoiles silencieuses ont été les témoins de ton héroïsme pour la liberté. Waouh, Ariette, ça vaut toutes les médailles du monde. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi.
Goddamn. 1849, Harriet Tubman, née esclave et héroïne de l'abolitionnisme, de Pierre Lorimi, avec Harriet Tubman, Claudia Mongumu, Robert Ross, Makita Samba, Elisa Brodus, Elodie Collin, Mrs. Whitehall, Émilie Chertier, Thomas Garrett, Yannick Chouara, William Steele, Teddy Chawa, Georges Alberti, Charlie Nelson, Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Pierre Lemaire, assistante à la réalisation Céline Schaeffer, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On continue de parler de Harriet Tubman et du réseau d'évasion de l'Underground Railroad avec mon invitée, l'historienne Anne Garay-Bourrier. Mais on écoute d'abord Babix, Chevaleresse.
Galope vers sa liesse, galope vers sa liesse, vers sa liesse. Galope, galope, galope sous l'orage. Galope sous l'orage, dans la nuit et la fange, sur le chemin des anges. Galope, galope, sans fanion, sans armoirie, baissez, baissez les ponts-levis. Combien de kilomètres encore? Combien de kilomètres encore, combien de kilomètres avant le jour, avant l'aurore, combien de galops à venir, combien de galops à tenir, combien de dragons à oxyre, combien, combien de forteresses avant l'amour, avant l'ivresse. Chevaleresse. Chevaleresse. Galope sans armure, galope sans armure, galope le cœur sûr vers l'azur. Combien de fiefs à défendre, combien de siècles à attendre, combien de murs à abattre, combien de flèches pour combattre dans ton carquois de joie. Continue ta course pour que se lèvent les matins. Continue ta course qu'aujourd'hui et demain je me hisse vers ton allure, vers ta hardiesse. Je me hisse vers ton allure, vers ta tendresse. Chevaleresse. 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 Chevaleresse.
France Inter, Stéphanie Duncan, autant l'on emporte l'histoire.
Anne Garay-Bourrier, on voit que l'histoire de l'esclavage est aussi une histoire de résistance avec l'histoire d'Harriet Tubman et de l'Underground Railroad. Est-ce qu'on sait le nombre d'esclaves noirs que Harriet Tubman et donc ce réseau de résistance de sauvetage a pu sauver?
Il y a une estimation difficile. Hein. Oui. Grâce à William Steele, dont vous parlez dans votre fiction, il y a des textes. Il a rempli un grand registre. Donc c'est le père du réseau véritablement, ce personnage. Et on estime à peu près à 100 000 personnes, 100 000 esclaves fugitifs sauvés grâce au réseau.
Donc ça, c'est au 19e siècle, pendant une quarantaine d'années.
Oui. Ben, il a commencé ce réseau juste après la première loi sur les esclaves fugitifs en 1793. Première loi qui impose finalement à tous les fonctionnaires du Sud, fonctionnaires qui ne sont pas du tout esclavagistes, fonction publique américaine de l'époque, il les oblige à aider les chasseurs d'esclaves. Et donc, donne une dimension tout à fait particulière. Hein, ça crée l'esprit de résistance chez d'autres blancs qui ne veulent pas du tout participer à l'esclavage, qui font pas partie du système. Et c'est là qu'il y a une réaction, une première réaction, et on commence à aider de manière clandestine quelques esclaves à s'enfuir en résistance à cette première loi de 1793. Puis il y a la deuxième, et celle de 1850 dont vous parlez très justement, qui étend cette décision aux États libres.
Oui,
du
c'est assez
Nord.
Étonnant donc, que ce soit voté.
Ce qui est incroyable. Mmh. C'est voté, c'est un compromis assez nauséabond. Hein. C'est ce qui va déclencher la guerre, hein, ni plus ni moins. Et ça oblige là, du coup, tous les fonctionnaires du Nord à aider les chasseurs d'esclaves et les propriétaires qui peuvent venir dans le Nord récupérer leurs fugitifs. Alors c'est quelque chose absolument incroyable qui suscite évidemment, pour une fois, une réaction vraiment forte du Nord.
Et qui va aboutir aussi à ce que les réseaux de fugitifs aillent jusqu'au Canada, qui a aboli l'esclavage.
Et oui,
le Canada est une terre de liberté.
Elle devient une terre de liberté, la seule terre de liberté possible, puisqu'après 1850, il n'y a plus d'espace en Amérique du Nord, dans les États-Unis. Il n'y a plus d'espace pour un esclave, pour qu'il puisse effectivement être protégé. Donc ils sont obligés, il ne s'agit plus de faire 150 km à pied, ce qui est déjà héroïque.
Énorme.
Il faut en faire 900, donc c'est impossible et ça oblige le réseau à se hyperstructurer en utilisant cette fois-ci le vrai train. Et on entasse des dizaines, les convois sont rarement de plus de 10 personnes, dans ces trains vers le Canada, le dernier espace de liberté.
Est-ce qu'Harriet Tubman et le réseau donc de l'Underground Railroad ont joué un rôle important, décisif, pour l'abolition de l'esclavage, justement, qui aura lieu, et en même temps pour la guerre, puisque c'est la guerre de sécession qui va finalement permettre l'abolition de l'esclavage en 1865. La guerre aura lieu donc de 1861 à 1865.
Oui, et d'ailleurs Harriet va y participer réellement, concrètement, puisque on établit à peu près à 300 personnes le nombre d'esclaves qu'elle va elle-même faire fuir, et il y en a une grande partie pendant le conflit où elle va diriger une troupe de 150 soldats unionistes noirs jusqu'au Maryland, et c'est avec eux qu'elle va en sauver le plus, parce que là la masse, on va dire, est plus importante, elle peut drainer plus d'individus, et ça joue bien sûr dans finalement la conclusion positive de cette guerre, ça plus quelques ouvrages, la littérature parfois aide, il y a quand même eu La case de l'oncle Tom contesté, mais bon, et il y a surtout les récits d'esclaves, beaucoup d'esclaves à l'époque où Harriet déjà faisait ses allers-retours, d'esclaves fugitifs qui ont témoigné, qui ont écrit. Donc les esclaves ont aussi milité et ont joué un rôle très important dans le règlement du conflit.
Harriet Tubman elle-même écrit, fait le récit de sa vie qu'il écrit par une autre femme.
C'est ça.
Mais c'est
ça.
Son histoire qu'elle raconte dans ses mémoires.
Tout à fait. C'est Sarah Bradford, donc une abolitionniste. Là, on est après la guerre. Donc, l'abolition a lieu. Elle devient une féministe en même temps que Harriet, qui devient aussi une militante des droits des femmes. Et elle raconte son histoire et donc tous les éléments un peu factuels hein, dont on dispose aujourd'hui, c'est Sarah Bradford qui les collecte dans cet écrit très militant et très féministe. Et c'est là qu'on apprend donc les 19 allers-retours. Certains historiens ont dit qu'il y en avait peut-être un peu moins, mais bon, 19, ça fait partie de la légende aussi d'Harriet Tubman. Et puis cet ouvrage hein, qui est très important dans l'histoire de la communauté noire.
Harriet Tubman, vous l'avez dit, elle milite pour les droits des femmes, le droit de vote pour les femmes, pour oui. toutes les femmes. C'est ça qui est assez étonnant pour les femmes noires, mais bien sûr, mais aussi pour les femmes blanches, pour tout le monde, pour toutes les femmes.
Mais c'est ça qu'on appelle
féminisme universaliste.
Universaliste, c'est une vraie. Enfin, c'est une femme extraordinaire. C'est une héroïne. L'Amérique adore les héroïnes et les héros. Mais il faut reconnaître que lorsqu'ils sont noirs, c'est un petit peu plus difficile. Donc le chemin est encore un petit peu long. Voilà, pour l'instant, son visage sur un timbre. Mais
elle a une journée tout. Aussi, la journée du 10 mars,
ah, oui.
je crois.
C'est vrai. Vous
Qu'est-ce
avez raison.
Qu'est-ce qui se passe ce jour-là?
Oh ben ce jour-là, des reportages sont faits, des films sont projetés, voilà, il y a une cérémonie, un mémorial. On fait une petite fête autour de ce mémorial dans le Maryland. Donc il y a des petits événements, mais on est très très loin de la réparation. Pour employer un mot que l'ONU demande, enfin a formulé très clairement pour les États-Unis, hein, en 2020, il faudrait qu'il y ait réparation. Pour les afro-descendants aux États-Unis. Donc, ce qui se passe avec Harriet Tubman et sa reconnaissance, un timbre, une journée, ça n'est pas une réparation. C'est encore très très loin de l'être. Donc, on
et même en 2016, les États-Unis ont décidé de faire figurer Harriet Tubman sur le billet de $20. C'était pour la première fois qu'une personnalité noire, et c'était la troisième femme qui devait apparaître sur un billet américain. Mais en 2017, l'administration Trump a remisé cette question. Et où en est-on aujourd'hui, Anne-Garée Brouillet?
Eh bien, rebelote, ça a échoué à nouveau en 2021. Et pourtant, Kamala Harris a remis ce dossier sur le devant de la scène, grâce à Biden. Il y a eu des concertations, il y a eu à nouveau des débats, et puis il y a eu une polémique qui a même émergé de la communauté afro-américaine, qui s'est dit, pourquoi la faire figurer sur le billet de $20 ? De l'autre côté, il y a la tête d'Andrew Jackson.
Un autre président des États-Unis.
Eh oui, le septième, hein, celui qui a déporté massivement les Indiens et qui était favorable à l'esclavage. Pourquoi serait-elle finalement uniquement légitime si elle est de l'autre côté de la tête de Jackson? Donc la communauté a dit, on voudrait qu'elle soit seule sur le billet de $20. Alors là, ça posait un problème. L'Amérique n'était peut-être pas prête à supprimer la tête sur le billet de $20, la tête d'Andrew Jackson. Donc il y a eu cette première polémique, puis la deuxième, finalement assez légitime, hein, qui a émergé de Black Lives Matter, ce grand mouvement de visibilisation de la communauté, qui a dit, mais est-il bien intéressant, est-il bien logique que, en fait, ce soit sur un billet, donc sur de l'argent, que figure le visage d'Harriet Tubman, qui est le pur produit d'un système économique que nous dénonçons encore. Est-ce une réparation ou est-ce une ironie? Et effectivement, les débats ont été tellement longs que ça a tranquillement donné à Trump le temps d'être réélu.
Eh bien, c'est une histoire à suivre. Merci beaucoup, Anne-Garée Brouillet, de nous en avoir parlé d'Harriet Tubman. Pour en savoir plus sur elle, je recommande la lecture de ses mémoires qui sont disponibles dans la petite bibliothèque Payot en classique. Et je remercie au passage aussi ICI Pays d'Auvergne qui a assuré la liaison. De vous, Anne-Garée Brouillet, on peut lire, coécrit avec Christine Duhallet, De l'invisibilité à la visibilité, visage de l'inconvenant, édité aux presses universitaires Blaise Pascal dans la collection Littérature. Voilà, c'est la fin de cette émission qui était réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin à la technique, Élise Christophe. Vous pouvez vous abonner au podcast D'autant n'importe l'histoire sur l'appli Radio France, où j'attends avec impatience vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, nous partirons en Algérie au 19e siècle en compagnie d'une autre combattante de la liberté, Lala Fatma Nsoumer, une figure de la résistance kabyle après la conquête française de l'Algérie, figure mystique et guerrière. Charismatique, elle a remporté plusieurs batailles avant d'être faite prisonnière. 1854, Lala Fatma Nsoumer, la rebelle de Kabylie, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.